Chapitre 13. L'héritage du corsaire. C'était pour cet héritage que Madame Belloc vivait depuis son mariage, et même c'était lui qui l'avait mariée à Belloc jeune, lorsqu'elle avait été obligée de reconnaître qu'elle n'arriverait jamais à épouser Belloc aîné. Née à Saint-Maclou, où son père, vieux sous-officier décoré, devenu adjudant à la fin de son service, avait obtenu un débit de tabac, elle avait vu Belloc arriver alors qu'elle était enfant, et dans ses souvenirs de petite fille, elle le retrouvait avec son maître à la main et son ballot de marchandises sur l'épaule, entrant dans le bureau pour acheter son tabac. À ce moment, bien entendu, elle n'avait pas vu en lui un mari possible, bien qu'elle fût extraordinairement précoce dans ses idées de mariage. Ce grand diable à l'air dur, toujours crotté ou poussiéreux, lui inspirait une sorte de frayeur vague. Plus tard, quand elle était revenue de la maison des Couans, où elle n'avait passé que 2 ans, rappelée subitement à Saint-Maclou par la mort de sa mère pour aider son père à tenir leur bureau de tabac, ce n'avait été que du dédain qu'elle avait éprouvé pour cet aventurier de village qui faisait tous les métiers. Avec les grandes ambitions et les hautes visées qu'elle avait alors, pouvait-elle laisser tomber ses regards sur un homme plus âgé qu'elle de 20 ans, sans éducation, sans manières, qui n'était qu'un marchand? Le mari qu'elle rêvait, qu'elle voulait, et qu'elle était certaine de pêcher un jour avec la beauté qu'elle se reconnaissait, c'était un jeune homme élégant, distingué, ayant la fortune et le nom, capable de réaliser ses visées ambitieuses. Pourquoi ne le trouverait-elle pas? D'autres, qui certainement ne la valaient pas, avaient fait des mariages plus beaux que celui qu'elle voulait. Si elle en était réduite en ce moment, par la fatalité, à s'asseoir dans un débit de tabac, elle n'en était pas moins la fille d'un glorieux soldat, et cela valait mieux, sans doute, que d'être née dans une famille de vulgaires boutiquiers. D'ailleurs, il aurait cela de bon, ce misérable débit de tabac, qu'il faisait défiler devant elle, pendant la saison des bains, tout un monde de jeunes hommes élégants et distingués, parmi lesquels elle finirait bien par rencontrer un mari. Au temps de sa jeunesse, il n'y avait que les gens du pays, un pêcheur, un paysan, qui s'arrêtaient dans le bureau pour bavarder entre eux, en achetant leur tabac ou en allumant leur pipe. Maintenant, pendant les mois d'été, depuis midi jusqu'à minuit, le bureau ne désemplissait pas. Et ce n'étaient ni des matelots ni des paysans qui l'encombraient. À peine cela, pouvait-il se faire servir les 2 sous à fumer ou à chiquer? C'étaient des étrangers jeunes ou vieux, mais en tout cas des gens comme il faut, qui venaient, soir et matin, choisir leurs cigares, longuement, en bavardant avec elle. À la vérité, son père était presque toujours là, lisant son journal, raide dans sa tenue militaire de sous-officier, mais cela n'empêchait point qu'on glissât à la fille des compliments ou de doux propos, et qu'en prenant la monnaie que celle-ci rendait avec un sourire, on lui caressa les doigts ou on lui serra la main. Parmi ces soupirants, il s'en rencontrerait bien quelques-uns qui pourraient devenir des maris. Cela lui paraissait d'autant plus vraisemblable qu'elle ne négligeait rien pour les amener à cela. Sourires engageants, soupirs, regards alanguis, tendresse mélancolique ou plaisanterie folichonne, elle avait des coquetteries pour chaque nouveau venu, appropriées au caractère ou au tempérament qu'elle croyait reconnaître en celui qu'elle voulait attirer et retenir. Les années s'étaient écoulées. Il était venu des amants, il ne s'était point présenté de mari, et il avait fallu qu'elle en arrivât à s'avouer que ses rêveries de jeune fille dont elle s'était bercée ne se réaliseraient pas aussi facilement qu'elle l'avait imaginé. Que de déboires, que d'humiliations, que de désespoir pour elle, qui s'enchaînaient, succédant les uns aux autres, sans que rien pût lui donner à espérer qu'il ne se répéterait pas jusqu'à l'heure terrible où il ne lui resterait plus assez de dents pour oser sourire. Alors, elle n'aurait donc à vivre vieille fille dans ce débit de tabac où la honte l'étouffait. Pendant ce temps, l'aventurier de village pour lequel elle n'avait pas eu assez de dédain s'était enrichi. Ce n'était plus un pauvre diable crotté ou poussiéreux qui entrait allumer sa pipe sans que personne fît attention à lui. C'était un homme à l'attitude assurée de celui qui a ses poches lestées et qu'on saluait bas avec crainte ou avec considération. À mesure que les chapeaux s'étaient abaissés devant lui, elle avait changé de manière et le dédain avait été remplacé par les sourires et les prévenances. Elle avait vu qu'il était homme et elle s'était arrangée pour qu'il vît qu'elle était une belle fille. Mieux valait un mari sans éducation et sans manière, mais avec de l'argent, que pas de mari du tout. Justement, Belloc savait très bien découvrir les belles filles, et s'il n'avait pas fait attention à celle-là, c'était parce que tout d'abord, il n'avait trouvé en elle qu'un accueil glacé ou hautain, et qu'il n'était pas homme à perdre son temps auprès d'une fille bégueule, alors surtout qu'elle ne pouvait le servir dans ses affaires. Mais dès là qu'elle se montrait disposée à changer avec lui, de son côté, il était tout prêt à changer avec elle. Après tout, elle en valait bien une autre. Si elle n'était pas en situation de lui rendre les services d'intrigue et d'espionnage que d'autres lui rendaient, elle serait une agréable maîtresse. Il aurait pour le plaisir, car la prendre pour sa femme, il n'en avait même pas la pensée. Alors s'était engagée entre eux une lutte qui avait duré longtemps, lui voulant faire d'elle sa maîtresse, elle voulant faire de lui son mari, et qui n'était entrée dans une phase nouvelle que le jour où elle avait eu la certitude qu'il renoncerait à elle si elle ne cédait point. En cédant, l'amènerait-elle au mariage? Prendrait-elle par l'accoutumance une influence dont il ne pourrait pas se dégager? Lui deviendrait-elle indispensable? Trouverait-il en elle les mérites qu'aucune autre femme ne lui avait révélés? Avec la haute opinion qu'elle avait d'elle-même, de son intelligence, de sa volonté, de sa ténacité, de sa rouerie, elle l'avait cru. Mais ce calcul avait été faux. L'accoutumance n'avait pas eu plus de force que le désir. Intelligence, volonté, ténacité, rouerie, tout avait échoué. Un jour était venu où elle avait dû reconnaître, comme elle l'avait dit à Marichette, qu'il n'épousait pas. Faudrait-il donc qu'elle renonçât à cette fortune qu'elle avait faite sienne depuis qu'elle l'évaluait, l'arrangeait, la caressait? Si elle ne l'avait point tout entière, elle en aurait une partie, sinon franchement, au moins indirectement. Parmi ses fidèles, elle comptait Belloquet, qu'elle avait toujours traité en parent bien plus qu'en amoureux, en camarade, en ami. Il était tendre, celui-là, il avait le cœur sensible, il était faible, il était de ceux qui épousent. Elle en ferait son mari. Son père venait de mourir, elle perdait avec lui et retraite et bureau de tabac, c'était la misère. D'ailleurs, peut-être qu'en apprenant ce mariage, Belloc reculerait devant cette énormité. Mais il n'avait nullement reculé et au lieu de se fâcher, il l'avait félicité. C'est justement le mari qu'il te faut. Jusque-là, les deux cousins avaient vécu dans une union parfaite, le jeune obéissant à l'aîné comme à un père, le servant avec l'empressement, le zèle, le dévouement d'un fils. Mais après le mariage, les relations avaient pris un autre caractère. Ce qu'elle voulait, c'était une association entre les deux cousins et elle avait cru qu'en manœuvrant son mari, elle réussirait. N'était-il pas indispensable à son aîné, aussi bien pour son ambition que pour sa fortune? Mais le corsaire ne s'associait pas plus avec un homme qu'avec une femme, car pour lui, personne n'était indispensable, ni homme ni femme. Il gardait celui ou celle qui lui rendait des services, il les renvoyait quand il le gênait. L'intelligence, la volonté, la ténacité, les roueries n'avaient pas mieux réussi pour l'association que pour le mariage. Après plusieurs années de lutte, pendant lesquelles elle avait dû à chaque instant remonter son mari, toujours prêt à faiblir, la rupture s'était faite, violente, irréparable, implacable, au moins de la part de l'aîné. Et cependant, malgré cette rupture, elle n'avait pas renoncé à la fortune qu'elle visait depuis si longtemps. Elle l'avait manquée par le mariage de l'association, elle l'aurait par l'héritage. Telle qu'elle connaissait Belloc aîné, elle avait la certitude qu'il ne se marierait jamais et n'aurait pour enfant que des bâtards qu'il ne reconnaîtrait pas. Il n'était pas davantage à craindre qu'il fît un testament. Jamais il ne se déciderait à l'écrire, de peur de laisser après lui une preuve de son ignorance, et il ne se déciderait pas davantage à le dicter à un notaire devant quatre témoins, de peur d'indiscrétion. D'un côté son orgueil, de l'autre sa défiance, le ferait mourir intestat. Alors ses héritiers naturels étaient Sylvain et sa cousine de Paris. Sans doute, ce n'était pas sans une colère rageuse qu'elle admettait le partage avec cette cousine de cette fortune qu'elle avait voulue entière. Mais enfin, la moitié, c'était quelque chose. Depuis des années, elle vivait sur cet espoir, se consolant des tristesses du présent par sa confiance en l'avenir, calculant les chances de mort du corsaire, qui devait se tuer un jour ou l'autre en montant dans ses voitures en marche, ou bien qui devait être tué par un de ses nombreux ennemis. Mais voilà que l'arrivée de Marichette dérangeait toutes ses combinaisons. Elle allait demeurer sous le même toit que le corsaire. Elle était jolie, elle avait 15 ans, et lui en avait 50. Il fallait intervenir.